c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Oui, vous pouvez l'écouter partout dans les globes terrestres. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler d'un pays pas très connu, et en général, c'est de l'Amérique centrale. Il s'agit de El Salvador. Oui, ça s'appelle comme ça, El Salvador. Et ensuite, nous allons parler encore de la capitale de El Salvador. Ça s'appelle San Salvador. Il ne faut pas confondre. Nous allons parler aussi de sélection en Argentine. Et nous allons découvrir comment les richissimes latino-américains sont installés dans une capitale de l'Europe. Vous allez découvrir ça avec Béatrix.
Donc, El Salvador, sous l'empire du système Bukele. Le jeune président salvatorien Nayib Bukele jouit d'une forte popularité en raison de sa gestion du combat entrepris contre les gangs. Mais ses opposants dénoncent des atteintes de plus en plus fréquentes aux principes démocratiques. Le président salvadorien le dit et le répète, « Nous ne sommes plus les mêmes ». 4 ans de bukélisme ont modifié la face du Salvador et les 6 600 000 habitants l'adorent, car il a réussi là où tous les autres avaient échoué. Vaincre les pandillas, ce sont des gangs qui ont ensanglanté le pays et la région centra-américaine pendant plus de 2 décennies. Presque tous les jours, Bukele tweet donc pour ses 5 200 000 abonnés. Encore une journée avec 0 homicide. Un constat qui a un impact indéniable alors que 7 ans plus tôt, on pouvait déplorer presque 20 assassinats par jour. Il suffit de se promener dans les rues de San Salvador, la capitale, pour mesurer l'évolution. Des enfants jouent au foot sur une place, un couple prend un verre en terrasse, des scènes de la vie quotidienne impensables il y a seulement 2 ans, tant les gangs semaient la terreur, racketaient les commerces, contrôlaient les quartiers, menaçaient leurs habitants. Les basculements datent du 27 mars 2022. Ce jour-là, après un week-end meurtrier, 87 assassinats, le président déclare la guerre aux gangs sous les applaudissements d'une population excédée. Il décrète l'état d'urgence, déploie l'armée dans les rues, fait encercler des villes entières pour en extirper les membres des gangs et jeter 70 000 personnes en prison. 1,6% de la population est désormais sous les verrous. 1 an et 6 mois plus tard, le constat est sans appel. Un média d'investigation l'a vérifié en parcourant 14 villes qui étaient auparavant sous la coupe des groupes criminels. Les gangs n'existent plus sous la forme dont le Salvador en a souffert. Nayib Bukele, bientôt 42 ans, jubile. En l'espace de 4 ans, le chef de l'État salvadorien est devenu le modèle d'une partie de la droite latino-américaine. La propagande gouvernementale renforce cette popularité. Nayib Bukele s'y connaît en propagande. Il a pris la tête de l'entreprise familiale de publicité créée par son père, descendant de chrétiens de Bethléem en Palestine. Discriminés à leur arrivée au Salvador au début du XXe siècle, les migrants palestiniens sont devenus en un siècle des commerçants prospères, s'imposant face aux riches producteurs de café. Dans un pays considéré comme le reste de l'Amérique centrale comme l'arrière-cour des États-Unis, le discours de Bukele contre l'impérialisme yankee et les diktats occidentaux sur la manière de gouverner son pays fait mouche. L'inclusion dans une liste de centres américains, corrompus de plusieurs hauts fonctionnaires ou députés salvadoriens, renforce le sentiment que Washington veut, comme à son habitude, imposer sa loi. Nayib Bukele se présente en gagnant de l'indépendance contre le géant nord-américain, accusé de ne défendre que ses propres intérêts. Déjà apprécié en raison de sa gestion comme maire de San Salvador en 2015-2018, Bukele peaufine à cette époque son image d'outsider incorruptible en multipliant les piques contre son propre parti, le FMLN, l'accusant de s'être vendu au néolibéralisme. Il est expulsé. Si le président Bukele se présente en héros de l'anticorruption, de graves soupçons de malversation pèsent sur son gouvernement. Or, à ce jour, aucune enquête n'a été diligentée. Rien de tout cela n'a écorné la popularité de Bukele. À 6 mois avant la fin de son mandat, il poursuit sa politique de concentration du pouvoir. On peine à trouver l'équilibre entre les diatribes prononcées par Washington et la circonspection des Européens, soucieux de ne pas couper les canaux de communication. Les organismes internationaux ont démontré qu'ils n'ont pas les outils suffisants pour freiner l'avancée de l'autoritarisme dans la région.
Merci, Béatrix. Oui, ça c'est un extrait d'un long article paru dans le journal Le Monde. Et dans un autre, d'autres de nos sources, c'est Dial, qui je vous informe très brièvement que l'Amérique centrale est indiquée comme les laboratoires de l'Empire. Il y a plus de 150 ans, les États-Unis se sont imposés comme puissance impériale en Amérique centrale, donc au San Salvador, au Nicaragua et au Guatemala. Aujourd'hui, la région concentre en elle toutes les contradictions d'un empire à la dérive. C'est un peu peut-être ce qui se passe au San Salvador.
Mmh. Ouais,
tout au long du XXe siècle, l'Amérique centrale a été perçue comme un laboratoire de l'empire, selon la formule de l'histoire. Historien grec Grandin. Les prémices de son ambition ont fait qu'entre la guerre contre le Mexique, la découverte de l'or en Californie et la présence. Mais je m'arrête là parce que sinon ça va être trop long. Vous êtes venu à l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et on va revenir à San Salvador, un peu d'histoire, Béatrix, n'est-ce pas, avec Monseigneur Romero.
Oui, en 1978, l'archevêque l'invite à s'asseoir. Marianela Garcia, avocate des torturés, vient toujours pour les autres, mais cette fois, elle vient pour elle. Cette fois-ci, elle a quelque chose de personnel à lui dire. Calmement, elle raconte que les policiers l'ont séquestrée, attachée, frappée, humiliée, déshabillée et qu'ils l'ont violée. Elle le raconte sans larmes ni sursaut, avec son calme habituel, mais l'archevêque Arnulfo Romero n'avait jamais entendu vibrer dans la voix de Marianela tant de haine, d'échos de rage, d'appels à la vengeance, et quand Marianela se tait, l'archevêque, effacé, effaré, se tait lui aussi. Après un long silence, il lui dit que l'Église ne hait personne et qu'elle n'a pas d'ennemis, que les criminels sont aussi nos frères, qu'elle doit pardonner à ses persécuteurs, qu'elle le doit. Et soudain, l'archevêque Romero se tait. Il baisse les yeux, cache sa tête entre les mains, il secoue la tête et dit « Non, je ne veux pas savoir ». Et sa voix se brise. L'archevêque Romero, qui apporte toujours réconfort et refuge, est pris de doute. Ça, c'est en 1980, à San Salvador.
Déjà après, donc.
Deux ans après, il y a quelques deux ans, il s'entendait qu'avec Dieu. Maintenant, il parle à tout le monde et pour tout le monde. Chaque fils du peuple est tourmenté par les puissants. Chaque fils du peuple tourmenté par les puissants est le fils de Dieu. Monseigneur Romero n'a plus rien à voir avec ce pasteur hésitant que les puissants applaudissaient jadis. Maintenant, le peuple interrompt par des ovations ses homélies qui accusent le terrorisme d'État. L'archevêque a exhorté les policiers et les soldats à désobéir à l'ordre de tuer leurs frères paysans. Romero a dit au peuple salvadorien « Lève-toi et marche ». L'assassin arrive à l'église, escorté par une patrouille de policiers. Romero est en train de célébrer la messe. Au moment où il lève les bras et offre le pain et le vin, corps et sang du peuple, l'assassin appuie sur la détente.
Voilà, donc Monseigneur Romero a été assassiné, justement par le terrorisme d'État. C'est des policiers qui l'ont tué. Mais nous allons passer peut-être à une information un peu plus gaie, positive, n'est-ce pas, en Argentine,
oui.
Au sujet de l'élection.
Ah oui, il s'agit d'un second tour d'élection présidentielle aura lieu le 19 novembre prochain entre Sergio Massa, ministre de l'économie sortant, et Javier Milei, économiste anarcho-capitaliste. Sergio Massa, 51 ans, candidat du bloc gouvernemental centre-gauche, est arrivé en tête avec 35,9% devant Javier Milei à 30,5% au premier tour de l'élection présidentielle dimanche 22 octobre dernier. Rarement depuis le retour de la démocratie il y a 40 ans, le scrutin aura été aussi incertain pour l'Argentine, troisième économie d'Amérique latine à l'inflation chronique. Javier Milei, ultralibéral, promet de tronçonner l'État, admire Donald Trump, et nie la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Il suit un fil rouge dégagiste contre la caste parasite, selon lui, les péronistes du centre-gauche, et les libéraux qui alternent au pouvoir depuis 20 ans. Qu'ils s'en aillent tous, qu'il n'en reste plus un, a-t-il lancé en clôture de campagne. Il peut paraître stupéfiant que le ministre d'une économie surendettée à l'inflation parmi les plus élevées du monde soit qualifié pour le second tour. C'est tout l'art de Sergio Massa, élégant avocat de formation, mais homme politique à temps plein depuis 25 ans, d'avoir tracé son sillon au point d'apparaître comme la moins mauvaise option pour un exécutif impopulaire. En campagne, il s'était évertué à dissuader du saut dans le vide avec Milei. Il a promis un gouvernement d'unité nationale, gageur dans un pays polarisé. Les Argentins ont appris à vivre l'incertitude du lendemain, des étiquettes de prix valsant d'une semaine sur l'autre et une lutte quotidienne pour déjouer les prix, achats en début de mois, jonglage avec divers crédits.
Et donc, Massa a dit ?
Lundi, l'Argentine continue. Il faut transmettre de la tranquillité, a voulu rassurer donc ce dernier.
Voilà, donc Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie. Mais nous allons parler des problèmes justement de l'Argentine avec les jeunes qui veulent partir, n'est-ce pas?
Oui, sur fond de crise économique, les jeunes Argentins tentés par l'exil, l'inflation, l'augmentation de la pauvreté et l'insécurité sont les raisons les plus évoquées par les jeunes de 18 à 29 ans songeant au départ. Près de 70% des Argentins affirment qu'ils quitteraient le pays s'ils avaient les moyens financiers, selon un sondage de l'Observatoire de psychologie de l'Université de Buenos Aires. Le taux de pauvreté a atteint 40%. L'inflation est au plus haut depuis 30 ans. L'aspiration des jeunes à l'exil fait d'ailleurs partie des arguments de campagne des politiques par rapport à l'élection présidentielle évoquée. Il n'existe pas de données officielles et précises permettant de confirmer ou d'infirmer une émigration massive de la jeunesse. Par ailleurs, dans un pays fortement marqué par l'immigration, 6 millions d'Européens ont débarqué en Argentine à la fin du 19e siècle et début du 20e. Nombre d'Argentins détiennent déjà un passeport européen. Ils peuvent quitter le territoire en brouillant les statistiques. Seule certitude, les files d'attente s'allongent devant les consulats. L'entrée en vigueur de la mémoire démocratique espagnole a ouvert une fenêtre pour les descendants d'exilés de la guerre d'Espagne et de la dictature franquiste puissent demander la nationalité espagnole. Les candidats ne sont pas contraints de prouver la condition d'exilé politique de leurs aïeux si ces derniers ont émigré durant des années les plus dures de la dictature. Entre octobre 2022 et fin juin 2023, près de 14 000 demandes de naturalisation espagnole ont été déposées en Argentine, de loin le pays où elles sont les plus nombreuses. De l'annonce de la loi espagnole, les scènes se sont reproduites. De longues files se sont formées devant les consulats espagnols à Buenos Aires, mais aussi à Mendoza ou à Córdoba, certains dormant sous des tentes installées sur le trottoir. Thank you.
Piazzolla, grand musicien argentin. Et c'est un enregistrement qui a été fait à Milano, à Milan, en Italie, en 1984, justement avec Piazzolla au bandoneon. C'est en exclusivité pour l'émission L'Autre Amérique sur RLP. Mais maintenant, nous allons parler peut-être de
la Nouvelle Miami.
Oui, un peu. C'est positif, ça, malgré tout.
Oui, la Nouvelle Miami des Latinos fortunés. Grande fortune mexicaine, dissident cubain et ancien membre du gouvernement d'Amérique centrale. Si Madrid a toujours nourri des liens étroits avec l'Amérique latine, elle est très à la mode, en particulier chez les latino-américains les plus fortunés. En 2022, selon l'Institut national de statistique, plus de 3 millions de personnes nées en Amérique latine vivaient en Espagne, dont plus de 820 000 dans Madrid et sa région. Outre l'intérêt stratégique pour l'Europe d'une relation plus étroite, l'Espagne y gagnerait une nouvelle dimension géopolitique en jouant un rôle de pivot vers ses anciennes colonies. L'arrivée au pouvoir de nombreux gouvernements de gauche en Amérique latine pourrait avoir suscité l'inquiétude des grandes fortunes. Dans le quartier bourgeois de Salamanca, en plein cœur de Madrid, ces dernières années, les millionnaires latino-américains ont pris d'assaut les appartements de luxe construits par des promoteurs vénézuéliens ou mexicains. Rue Ortega y Gasset, c'est un nouveau restaurant de luxe qui a ouvert dans un palais du XXe siècle après que le chef d'entreprise mexicain Manuel González a investi 50 millions d'euros dans le projet. L'immobilier est le principal secteur d'investissement. Des promoteurs vénézuéliens ont ouvert la voie en 2013, à une époque où les prix étaient au plus bas. Ces derniers temps, ce sont les investisseurs mexicains qui ne cessent d'acheter et de rénover des édifices de grande valeur. Trois anciens présidents mexicains ont élu domicile dans la capitale. Carlos Salinas de Gortari a obtenu la nationalité espagnole. Felipe Calderón, invité par l'ancien chef de gouvernement José María Aznar, pour intégrer un centre de réflexion qu'il a créé. Quant à Enrique Peña Nieto, il a obtenu un Golden Visa après avoir investi dans des biens immobiliers de luxe dans le centre de Madrid. Il a trouvé en Espagne la tranquillité qu'il n'aurait pas pu éprouver dans son pays, où une enquête judiciaire a été ouverte contre lui pour des faits présumés de corruption. Encore ouais. Une fois.
Oui, les problèmes, ce n'est pas seulement avec Latine, la corruption, elle est un peu partout. C'est pour cela qu'il y a cet organisme qui s'appelle Anticorruption, n'est-ce pas?
Oui.
Et au sujet justement de Madrid comme capitale, comme ville préférée de certains latinos, on nous dit que Madrid a toujours été une ville d'accueil pour les latino-américains, de gauche comme de droite, rappelle Carlos Malamud, spécialiste de l'Amérique latine à l'Institut Royal Elcano. Lui-même, arrivé en Espagne dans les années 1970, pour échapper à la dictature du général argentin Videla. On a vu Videla avec le procès, n'est-ce pas?
Le procès.
Lors des quatre dernières présidences espagnoles du Conseil de l'Europe, il y avait déjà eu des tentatives pour placer les relations avec l'Amérique latine au centre de l'agenda, sans grand succès. Les contextes actuels, la nécessité de diversifier ses alliés pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine et l'intérêt croissant porté à l'approvisionnement en minerais stratégiques, en énergie ou en céréales, a changé la donne. Donc, l'Espagne compte bien compter avec l'Amérique latine, et pas seulement l'Espagne, mais aussi l'Europe.
Thank you.
Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.